La conversation avec Larry Goldfarb avait commencé dans la rue, hors micro. Il parlait passionnément de son nouveau projet d'école en ligne et de centre de recherche collaboratif. On y reviendra finalement à la fin de l'interview. Lorsque le micro fut enfin allumé, la conversation démarra comme ça.
Ma mission, c'est de transformer notre milieu professionnel. Premièrement, et deuxièmement, changer la manière dans laquelle on est connu dans le monde entier. Mais sans changer notre milieu professionnel, rien d'autre va changer.
Et qu'est-ce qu'il faudrait changer dans notre milieu professionnel ?
Je pense qu'on n'a pas la tradition du supervision et soutien. Et je pense que ça vient un peu, si tu veux, du fait que les gens étaient trop distribués, qu'il n'y avait pas assez de gens dans un endroit de vraiment travailler ensemble. Et ça, je pense, on a besoin de ça. Je n'étais jamais dans une profession qui n'a pas une manière dans laquelle les gens qui sont plus expérimentés pour aider les débutantes. Et ça, je pense qu'il faut. Mais dans plusieurs moyens, de plusieurs manières, qu'il faut faire ça. À la formation à Amherst, à un moment donné, Moshe a interdit aux gens de la formation avant, de San Francisco, de nous parler de la méthode. Eh bien, ça, je n'ai pas compris. Si je vois Moshe comme chercheur qui vient de le laboratoire où les gens ont besoin de collaborer, c'est nécessaire là parce que tout le monde a une contribution différente à faire dans le projet. Et ça m'a étonné après quand j'étais dans un dojo et j'ai compris que les ceintures noires sont là pour aider les débutantes. Et bien là, pour moi, il a cassé cette tradition, cette relation sociale. Et je pense qu'il faut le rétablir. Moi, j'ai eu de la chance que j'ai une maman Fernigré, c'est un mentor, qui était de la formation de San Francisco, qui a cassé ses rêves. Eh bien, j'ai profité de son impertinence, c'est ça?
Et il s'appelait comment?
Elle s'appelle Edna. Edna Rossinus. Elle est encore en vie, elle a 86 ans. Eh bien, ça c'est une chose pour moi qui est vraiment importante, que de trouver les manières dans lesquelles on peut changer nos relations entre nous. Et une chose, c'est de trouver le soutien. Et l'autre chose, je pense qu'on a besoin du jargon. Mais par ça, je veux dire du langage professionnel. Parce que je pense qu'on a quelques mots, prise de conscience, chemin, proximal, distal. On a quelques mots qu'on utilise toujours, mais je pense qu'on a un milieu plus compliqué pour le terminologie qu'on a déjà entre nous. Et moi, quand j'ai commencé la formation, j'ai fait avant ça le PNL et les études de la cybernétique et de la systémique. Et pour moi, ça m'a donné, si tu veux, déjà j'ai eu une tâche quand j'ai commencé la formation. J'avais donné, moi, l'idée de faire comme Bandler et Grinder a fait dans le PNL pour Fritz Perls de Therapie Gestalt et pour les autres gens qu'ils ont étudiés. Ils ont fait, si tu veux, un plan de leur travail. Eh bien, c'était mon idée de faire un plan pour la méthode Ferdinand et je n'ai pas réussi parce qu'on a besoin de plus qu'un plan parce que le terrain est trop compliqué. Mais pour moi, d'avoir un plan, d'avoir des plans, un atlas, un compendium des plans. Ça, c'est important parce que ça devient que la méthode devient explicite. Et à ce moment-là, on peut partager le savoir, c'est ça, le savoir entre nous. Et ça, c'est une chose pour moi qui est vraiment importante.
Comment toi, tu définis la méthode Feldenkrais?
Ce que mon cher Feldenkrais a fait.
C'est ce que tu dis quand on demande ce que c'est la méthode Feldenkrais?
Non, pas du tout. Tu sais, ça dépend le contexte social et le but de la question. Eh bien, si quelqu'un de mes amis me demande c'est quoi la méthode Feldenkrais, c'est différent si je suis dans un congrès de chercheurs et quelqu'un me demande cette question-là. Ou si c'est un kinésithérapeute ou un musicien ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est mieux pas de dire c'est quoi la méthode Feldenkrais, mais c'est quand on la pratique. Parce que ça, c'est plus intéressant, parce que ça parle d'une manière de faire quelque chose et de pas de définir quoi c'est. Mais je pense que c'est une méthode corporelle de apprentissage somatique, si tu veux, c'est mieux, peut-être.
Et comment tu as connu la méthode?
De la première fois? Je pense que la première fois, c'était dans un cours de psychologie sur la sexualité. Et on a eu quelqu'un qui est venu de Danemark, qui était danseur, et qui fait un travail corporel, qui est venu dans la classe et qui a fait un stage. Et lui, le prof qui dirigeait la classe, a parlé de Feldenkrais dans ce contexte. Ça, c'était une introduction. L'autre, j'ai une amie, à la même époque, quand j'étais à l'université. Et j'ai fait beaucoup de danse et j'ai une amie danseuse qui a fait un grand stage, un grand séminaire le week-end avec plusieurs de profs. Et elle a fait un stage du Feldenkrais. Et moi, je n'ai pas vraiment apprécié. Elle m'a dit qu'elle a fait des mouvements, petits mouvements, très lents. Ça a changé beaucoup de choses. Ça, c'est les deux premières choses. Et l'été, entre ma première et deuxième année à l'université, j'ai fait une formation de psychothérapie. Et j'étais le moins âgé. Et tout le monde autre là travaillait son doctorat ou quelque chose comme ça. Et j'ai participé. Et une soirée, on a eu quelqu'un qui a fait un ou deux stages avec Moshe à New York, qui a venu parler de la méthode. C'était quelqu'un très égoïste et pas, c'est pas le mot en français, misogyniste, comment on dit ça en français? C'est quelqu'un qui déteste les femmes.
Misogyne.
Vraiment, il était quelqu'un d'Amérique du Sud, mais un peu caricature de ça, vraiment égoïste et vraiment dégueulasse avec les femmes dans la classe. J'ai pas beaucoup aimé ce type, mais on a fait un PCM et à la fin on a marché un peu, on était dans la campagne et bien j'ai marché dans les bois un petit peu et à un moment donné j'ai réalisé que j'ai laissé mes lunettes dans la salle. Et bien j'ai eu 18 ans à cette époque-là, peut-être 19 ans, et j'ai porté les lunettes depuis que j'ai eu 7 ans, et c'est la première fois que j'ai oublié mes lunettes, et j'ai pensé, bien, ce type pas très intéressant peut faire ce travail incroyable, ça doit être très intéressant. Et bien, c'était ça qui m'a vraiment lancé dans la direction de trouver c'est quoi le matériel, et après, je ne sais pas, c'est 3-4 ans après, j'étais dans la formation.
Donc tu pratiques depuis très longtemps.
Oui, ça fait 30 ans que j'ai fait des PCM, parce que j'ai commencé en poulet, et 29 ans que je fais des IF.
Le Feldenkrais, ça fait de nombreuses années que c'est pratiqué, pourtant on a toujours l'impression que c'est un secret, cette méthode, que les gens ne la connaissent pas. C'est ton impression ou pas?
Oui, je pense que c'est une grande partie de la maladie qui vient avec la méthode. Oui, parce que je pense que Moshe a eu un grand conflit. Oui, conflit. C'était une question, comment garder en sécurité ce qu'il veut offrir, tu sais, pour profiter de son idée, de ses idées. Je pense qu'il était toujours entre offrir et retenir, offrir et retenir. Et je pense que ça vient un peu de peut-être de ce problème. Parce que comment protéger une idée? Comment est-ce qu'il peut le protéger? Parce que c'est une idée. Et on ne peut pas protéger les PCM non plus. Parce que c'est comme une histoire. On peut protéger avec un copyright les mots exacts dans l'histoire, mais l'idée de l'histoire. Quelqu'un d'autre peut redire l'histoire avec les autres mots. On ne peut pas lui arrêter à faire ça. Mais c'est la même chose avec un PCM.
Mais est-ce qu'on a réussi à protéger jusqu'à
présent?
Non,
on a réussi à garder trop grand secret. Et la chose, je pense qu'on n'a pas besoin de protéger parce que, tu sais, on a des recettes. Ça n'arrête pas des gens d'aller dans l'école d'être chef ou de faire la cuisine. Et on a des disques et ça n'arrête pas des gens d'aller au concert. Et la chose qui est triste vraiment, c'est qu'à ce moment-là, je pense qu'on n'a pas assez d'appréciation que ce qu'on a à offrir en dehors de les mots qui est écrit. Parce que de faire interpréter une séance et de le faire dans une manière qui est vivante, ça prend un prof de grèce. Tout le monde peut lire ce qui est écrit. Et ça peut marcher, mais bien, on n'a pas besoin d'une formation pour faire ça.
Tu as travaillé avec Moshe, non? Ou pas?
Un petit peu.
Un petit peu?
Oui, parce que il est... moi, j'ai participé à Amherst. Il a enseigné les premières 2 ans. Moi, j'ai rattrapé la première an, le premier été, dans l'hiver, entre les 2 ans. Et ça veut dire que j'étais courbé dans le petit groupe qui a regardé les vidéos. Eh bien, on a fait la première année, les 9 semaines, dans 7 semaines, en hiver, entre les 2 étés. Et ça veut dire que la deuxième année de la formation à Amherst, j'étais là avec Moshe, 200 quelques personnes. Mais par hasard, j'étais un des 3 gens qui a fait la cuisine pour Moshe. Il a aimé la mienne le moins que les autres. Moshe a aimé des repas un peu plus, beaucoup plus salés et avec beaucoup plus de grâce que les choses que j'ai faites. J'étais un peu trop californien à cette époque. Je continue comme ça. Mais bien, j'ai passé pas mal des soirées là. Et la chose qui était drôle, c'est quand j'ai arrivé dans la cuisine, Moshe est rentré dans la cuisine et il est resté là toute la soirée. Et le table dans la salle de manger, il y avait des papiers et tout ça au-dessus de la table. Eh bien, tout le monde a mangé dans la cuisine. Il a fait des rendez-vous avec les gens dans la cuisine. Eh bien, j'étais là à côté, un peu invisible de temps en temps. Mais pas vraiment pour lui, parce qu'il a eu un œil incroyable en regardant tous les niveaux. Avait une conversation avec quelqu'un et remarqué sur cette conversation avec moi dans les moments que la personne ne regarde pas. C'était vraiment intéressant qu'il peut jongler comme ça. Et c'est là où j'ai fait connaissance avec Edna aussi, parce qu'elle était très proche de Moshe. Et oui, c'est là que j'ai passé un peu de temps, que j'ai eu une impression personnelle de lui, qui me connaisse un peu aussi.
Et qu'est-ce que tu retiens de lui?
Surtout des moments particuliers, des conversations. Il y avait une journée qui a fait une séance de IAF, que maintenant j'ai regardé les vidéos, mais il a revenu cette soirée et parlé de sa séance. J'étais jusqu'à l'autre côté de la table. Et il a raconté l'histoire, mais dans une manière très, très lente. Et à un moment donné, je me sentais dans une transe, vraiment. Et j'ai réalisé que chaque fois qu'il parle de quelque chose qu'il a fait, c'était comme un PCM pour moi, que j'étais guidé dans les sensations qu'il voudrait donner à cette petite fille dans cette séance. J'ai jamais eu un IF de lui, mais à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression d'être dans ses mains, par exemple. Eh bien, on a eu beaucoup de discussions. À un moment donné, il m'a accusé d'être socialiste. Et j'ai dit, oui, peut-être, mais je suis plutôt anarchiste. Et on a discuté la définition. Et enfin, il dit, oui, tu sais, moi, je suis anarchiste aussi. J'ai dit, oui, mais tu sais, il y a une petite différence entre nous deux. Il a dit, quoi? C'est quoi ça? Et j'ai dit, toi, tu veux être l'anarchiste en chef. C'est la seule fois qu'il a eu rien à dire pour moi. Et oui, mais il a aussi, il faut dire qu'il a aussi m'a demandé deux promis, un que j'ai pas gardé déjà, c'était de visiter Israël, j'étais pas là déjà, et l'autre c'est de participer dans la communauté professionnelle. Il m'a fait promis de faire ça. Eh bien, tu sais, j'ai fait beaucoup de choses. J'étais parti de la CA de le Guild américain, Amérique du Nord, il faut dire. Parti de la bureau accréditation, on dit ça, de Australie et Asia. Et j'étais sur le bureau de editorial board, le bureau du journal d'Amérique du Nord, et j'étais l'éditeur du newsletter d'Amérique du Nord pour plusieurs années, et j'étais aussi, j'ai participé dans les formations et tout ça, mais par exemple les choses que j'ai parlé déjà sur le site, ça c'est vraiment une manière de participer dans ma communauté et de trouver les manières différentes pour tout le monde qui veut de participer ensemble.
Tu peux reparler justement du site?
Oui, mais l'idée du site, c'est, il y a plusieurs idées. Une idée, c'est d'avoir une école en ligne pour donner des cours pour les gens qui veulent participer, qui ne sont pas dans le même endroit. Et par exemple, on peut faire... la première chose qu'on va faire, j'ai un très bon ami qui est mort, ça fait presque 2 ans, Richard Ehrman, qui a participé dans la communauté internationale et sur les projets des matériaux de Moshe. Et Richard, il a enseigné, je pense, 3 stages au Congrès d'Amérique du Nord et 3 ou 4 PCM. Et on va faire un cours d'utiliser cet enregistrement et ces PCM sur l'enseignement de PCM. On va faire des autres cours là pour les autres profs et des élèves dans les formations. Par exemple, pour travailler avec des séries de PCM, de les faire ensemble, de les analyser et après de les enseigner, mais dans un petit groupe, et chacun va enseigner la même PCM la même semaine, puisqu'on peut parler de la série et de travailler ensemble. Et ça, c'est un côté du projet, ça veut dire de faire une école, mais l'autre, c'est de faire un centre de recherche et des projets collaboratifs. On a déjà lancé le premier. Le premier, c'est, si tu veux, on a un grand bibliothèque des PCM de Moshe qui ont été écrits ou enregistrés d'une manière ou l'autre. Et on a cette bibliothèque, mais on n'a pas je ne sais pas le mot en français, un catalogue, un index pour trouver les livres. Oui, on a des titres, mais ça, c'est affreux parce qu'ils ne sont pas très descriptifs. Et bien, on est en train de faire la première étape pour avoir un index, une base de données pour tous les PCM. L'idée, c'est d'avoir une manière d'interroger toute la collection. Si je veux les séances, sur le côté dans laquelle les yeux regardent, les yeux bougent et la jambe plus haut est devant l'autre. Ça, je peux demander et pouf, ça donne toutes les séances. Mais bien, pour avoir ça, ça veut dire qu'il faut mettre le data dans la base de données. Et ça va être un projet collaboratif. Eh bien, on est en train de finir la base de données maintenant. Et on va faire cet été un projet avec les premières 50 séances d'Alexandre Yenai comme prof pour montrer aux gens qu'est-ce qu'on peut faire. Et bien, on est en train de... On a l'équipe presque et on va commencer... Ça a déjà commencé la semaine dernière de faire le travail puisqu'on a quelques 50 séances. Et on est aussi en train de collectionner la liste complète de tous les stages que Moshe a pour commencer à enseigner en anglais. Ça veut dire les formations, les stages, tout ça. Et maintenant, on a 842 titres dans la liste et je pense qu'on va avoir entre 1200 et 1400 titres uniques. Et l'idée, c'est ça va être fini en septembre. On va demander aux autres gens de nous joindre. Si on a 150 personnes, tout le monde fait 10, on va le finir assez vite. Ça, c'est le projet. Et l'idée, c'est que tout le monde qui contribue dans la construction va avoir le droit de toucher toutes les infos. On va avoir l'accès libre pour tout le monde qui a un compte sur le site, libre aussi, pour les renseignements basiques, ça veut dire la position, le titre, quelques petites choses. Et si quelqu'un veut avoir accès à toutes les choses, il faut payer un petit peu, mais c'est parce que j'ai déjà investi beaucoup, c'est pour continuer des projets comme ça. Mais l'autre chose qu'on a parlé, c'était, tu sais, au côté de la mystère. Je pense que, surtout pour nous, des profs, il faut qu'on comprenne ce qu'on fait d'une manière différente que nos élèves ont besoin de s'engager avec les matériels et avec les leçons. Et bien là, pour moi, je cherche une manière de rendre explicite ce qu'on fait. Et j'ai déjà eu une profession dans laquelle j'ai plongé dans le mystère parce que j'étais magicien pour quelques décades. Et je trouve que pour moi, ça ne m'amuse pas beaucoup de faire quelque chose qui rend des choses plus mystérieuses. Bien que les gens peu apprennent, c'est déjà assez mystérieux. Et j'ai parlé déjà de l'idée d'avoir des plans particuliers. Et si tu veux, c'est un peu ma mission de faire un atlas des plans que les profs en classe ont besoin pour naviguer ce terrain d'apprentissage. Et ça c'est aussi une grande partie des choses que j'ai fait avec la site et avec toutes les post-formations que j'ai fait parce que je pense qu'on a besoin d'avoir des modèles qu'on partage, qui nous rendent explicites sur ce qu'on fait et qui nous donnent la capacité de parler de ce qui se passe et des niveaux différents qui seront rendus dedans le travail.
Donc, c'est pas magique, le fait d'être grâce.
Non, c'est la magie, mais tu sais, la magie est basée sur quelque chose. Eh bien, moi, je suis comme élève toujours étonné par les faits. Ça, c'est de la magie. Mais comme prof, moi, je compte sur la méthode. Pour moi, il y a une méthode et je compte sur ça. La chose qui est la même chose entre la magie que j'ai pratiquée et la méthode Feldenkrais, que les deux travaillent avec la perception de quelqu'un d'autre. Et comme magicien, ce n'est pas que je fabrique Mais je crée une situation dans laquelle la personne se triche elle-même. La personne se triche elle-même. Ça veut dire que je crée la condition que quelqu'un pense que quelque chose a passé ou quelque chose est comme ça. Mais moi, je crée les conditions puisqu'il que c'est son expérience sensorielle. C'est la même chose dans le faiblesse. Et de comprendre comment la perception marche et comment l'utiliser, maintenant pas pour faire des plaisanteries, mais pour changer, si tu veux, l'image de soi. C'est le même processus, c'est le même mécanisme de perception.
Merci.